Nous sommes, mon épouse et moi, très reconnaissants de ce que Dieu nous ait ouvert lui-même un chemin vers cette Église. Et nous le bénissons pour la manière dont tout s'est déroulé jusqu'à maintenant, depuis notre premier rendez-vous d'avant-hier soir. Merci pour l'accueil des uns et des autres, pour la joie du partage, pour tout ce que nous emporterons tout à l'heure avec nous dans notre voiture, en continuant le service que Dieu nous a confié. Dans le cadre de cette série de trois temps de réflexion sur le sujet que je ne répéterai pas, je suppose que vous êtes presque tous au moins au fait de notre thème tourné vers ces pourquoi que nous avons tous un jour ou l'autre prononcé, faisant face à ces chemins incompréhensibles de Dieu. Dans nos souffrances tellement variées, le terme souffrance étant ici un générique qui englobe une variété impressionnante de situations que Dieu permet et que dans certaines situations, il provoque lui-même. Nous allons, dans le cadre de cette dernière étude, ouvrir nos Bibles, et je vous encourage à ouvrir vos Bibles avec moi dans le deuxième livre de la Bible, le livre de l'Exode, au chapitre 13, pour en lire les derniers versets, c'est-à-dire les versets 17 à 22. Exode, chapitre 13, versets 17 à 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes ou en bon ordre, tout équipés, hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot, ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Nous allons vers le Nouveau Testament pour lire la conclusion de trois chapitres consacrés à ce que nous appellerions la philosophie de l'histoire de ce monde en rapport avec Israël, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11, les versets 33 à 36, qui concluent cette sorte de trilogie très complémentaire, Romains 9, 10 et 11. Romains 11, versets 33 à 36. Romains 11, 33 à 36, je lis au verset 33. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, impénétrables. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, et par lui, et pour lui, que sont toutes choses. À lui, la gloire, dans tous les siècles. Amen. Après avoir évoqué vendredi soir les rôles respectifs de Dieu et de Satan dans la souffrance, nous avons suivi hier soir tout d'abord le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus sur cet escalier, c'était une illustration. Cet escalier le menant marche après marche, épreuve après épreuve, tentation après tentation, souffrance après souffrance, jusqu'à la perfection ultime d'une obéissance toujours parfaite, d'étape en étape, perfection ultime de la souffrance dans la mort expiatoire de celui qui est devenu mon sauveur, notre sauveur, mon Seigneur, notre Seigneur. Mais aussi, au-delà de ce parcours, en considérant le chemin du Seigneur Jésus, nous avons suivi un homme de la même nature que nous, soumis aux mêmes vicissitudes, aux mêmes combats, aux mêmes questions, aux mêmes angoisses, quoiqu'il ait vécu quelques 3000 ans avant nous. Je veux parler de David. À l'heure où, après avoir reçu l'onction royale qui le destinait à monter une dite plus tard, certainement, sur le trône, tout d'abord du petit royaume de Juda, avant que son règne s'étende à l'ensemble d'Israël, nous avons suivi cet homme sur les chemins incompréhensibles, impénétrables, insondables de Dieu. En considérant la souffrance comme une école vers la maturité spirituelle, un apprentissage de la dépendance de Dieu. Et il se pourrait, je n'en sais rien, mais je peux l'imaginer, parce que je suis fait de la même pâte que vous, que certains d'entre nous ont pu quitter, pour les uns, c'est vrai, encouragés, mais pour les autres, peut-être découragés. Découragés parce que, se disant, mais Seigneur, si je dois suivre un chemin semblable à celui que David a connu pendant une dizaine d'années peut-être, jalonné de tentatives d'assassinat, d'un roi de plus en plus pervers, ayant des attitudes démentielles dans une jalousie meurtrière absolument incroyable, quand nous savons la dose de souffrance et la succession d'épreuves redoutables qui ont jalonné ces 10 années de vie, nous nous disons, mais Seigneur, s'il te plaît, lui, d'accord, il allait être roi. Derrière lui se profilait le Seigneur Jésus, le Fils et le Seigneur de David. Mais Seigneur, moi, Est-ce que je vais avoir personnellement à passer par ce chemin-là? Face à ce genre d'interrogation que nous pouvons comprendre. Et rassurez-vous, ce type d'interrogation a fait partie de mon programme de pourquoi. Il était nécessaire que nous terminions ce court aperçu des diverses variétés de la souffrance par un message complémentaire destiné à nous aider à aller un peu plus loin, mais aussi à nous encourager. Et cet Exode 13, 17 à 22, qui est un texte fort porteur d'encouragement pour ce programme de souffrance inscrit sur l'itinéraire, le nôtre, que nous découvrons de jour en jour et d'heure en heure. Imaginez ce peuple d'Israël qui attend depuis des siècles, depuis les promesses faites à Abraham, enfin d'être en possession de la terre de la promesse. Enfin, de goûter à ce lait, à ce miel tant annoncé, qui, de surcroît, a connu des vicissitudes de plus en plus terribles en terre égyptienne, sous le joug pesant de Pharaon. Et puis Moïse s'est présenté de la part de Dieu, flanqué d'Aaron. Et vous connaissez l'histoire des 10 plaies, où la main puissante de Dieu s'appesantit toujours plus, jusqu'à cette nuit extraordinaire de la Pâque, annonciatrice du sacrifice libérateur par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, quelque chose qui se passe là, dans l'esprit de ces 2 à 3 millions de personnes, peut-être, qui se disent, mais enfin, enfin, la promesse faite à Abraham va s'accomplir et nous allons nous-mêmes être les acteurs de cet accomplissement. Et je les imagine, en chemin, cette immense colonne vient de s'ébranler, lourdement chargée de toutes les richesses égyptiennes même, qui vont servir plus tard à l'érection du tabernacle, par exemple, signe de la souveraineté absolue de Dieu sur les biens humains. Et je me vois très bien dans une famille, devisant avec mon épouse, les enfants suivant là, tout près, et disant à Matina, chérie, chérie, combien de pièces elle aura notre maison? Est-ce que tu veux de la tapisserie ou est-ce que tu préfères que nous fassions un peu de peinture? Et ainsi nous devisons en imaginant déjà le bonheur d'avoir notre petite maison dans cette terre promise, notre lopin de jardin, en nous appuyant sur toutes les promesses de Dieu, du Deutéronome en particulier, concernant la beauté, la richesse absolument extraordinaire de cette terre promise. Et tandis que nous rêvons ainsi et devisons un chemin, il y a quelques leaders en puissance, peut-être même syndicalistes, déjà à l'affût de tous les moindres faux pas du grand conducteur Moïse, qui se retrouve dans un petit coin en disant « Mais tu n'as pas l'impression que Moïse a pris un coup de soleil, à moins que ce soit un coup de vieux. Il ne sait plus lire une carte routière. Comment est-ce qu'il veut nous emmener le plus rapidement possible vers cette terre de la promesse après laquelle nous aspirons tous, en nous faisant partir dans la direction opposée? » Et une petite délégation se constitue, ceux qui sont forts en langue, et qui interpellent Moïse. Et qui lui disent alors, Moïse, tu as des problèmes avec les cartes routières? Est-ce qu'on peut t'aider? Aurais-tu perdu le sens de l'orientation? Nous savons que les uns l'ont, d'autres ne l'ont pas. Est-ce qu'on pourrait regarder ensemble? Nous avons une bonne carte, là. Et Moïse, qui avait beaucoup désappris et appris, de les considérer sans rétorquer agressivement aussitôt, mais surtout de lever les yeux vers le ciel. Et au bout d'un moment, de leur dire, vous voyez, vos yeux sont fixés sur votre carte. Et certes, c'est intéressant. Et il est vrai que Dieu l'utilisera, votre carte terrestre. Ne fût-ce qu'avec Jéthro qui sera un guide sûr pour les détails du voyage. Mais dans les instructions que j'ai reçues de mon Dieu, je dois regarder vers le ciel, non pas pour lire dans les étoiles ou dans la forme des nuages, non, mais simplement parce que Dieu manifeste sa présence là et donne ses indications au travers de la nuée. Et voyez-vous, la nuée n'emprunte pas l'itinéraire auquel moi-même j'avais pensé. Mais je la suis parce que j'ai appris à l'école du désert pendant 40 ans que les voies de Dieu ne sont pas mes voies, que la sagesse de Dieu n'est pas ma sagesse, que les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Alors j'ai appris à me soumettre à l'autorité de mon Dieu. Je ne comprends pas tout. Mais je le suis, parce que j'ai découvert que j'avais affaire à un Dieu sage, intelligent, riche en bonté, en miséricorde, en chérissement. C'est ce que nous laisse entendre ce texte que j'ai commenté en y mettant un peu d'imagination à ma manière. Lorsqu'il est écrit que Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Je dis, mon épouse et moi, nous avons fait 600 kilomètres pour vous rejoindre. C'était une journée qui, météorologiquement parlant, s'annonçait très mal pour nous. Un certain nombre de départements français étaient situés en zone orange, c'est-à-dire dangereux à traverser en raison de graves intempéries. Et il se trouve que cette zone orangée coupait notre itinéraire. Nous étions, normalement, si nous voulions emprunter l'itinéraire le plus court, tenus de la traverser. Et la connaissant bien, Nous savons que quand les intempéries y règnent, mieux vaut être particulièrement bien équipé. Mais imaginez un seul instant que la télévision n'ait pas existé, que la radio n'ait pas existé, et que nous ayons dû faire ce que l'on faisait autrefois, sans tout ce système de communication, de médias qui nous informent au plus près, et que nous ayons été invités à venir ici, depuis chez nous, avec une immense ignorance, la météo n'existant pas. Simplement, venant ici par le chemin qui nous semblait le mieux adapté, si possible le plus court. Alors, depuis Orléans, à 100 kilomètres au sud de Paris, nous serions descendus pour rejoindre la région de Beaune. Nous serions remontés vers Dole, et puis là, nous aurions pris la route qui monte vers le Jura et vers Pontarlier. Dieu aurait été bon si, avec une bifurcation très nette vers l'est, il nous avait donné une indication pour que nous n'allions pas vers l'est, mais que nous continuions encore vers le sud, encore vers le sud, encore vers le sud. Jusqu'à ce que finalement, enfin, ils nous disent, voilà, maintenant seulement vous pouvez aller vers l'est, parce que cette route-là est la bonne pour vous. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais moi je le sais. Et parce que je vous aime, je vous fais faire ce grand détour, mais par ce détour-là, vous allez arriver à Lausanne sans problème. Vous imaginez bien que, au moment où l'indication de Dieu nous aurait montré la voie du sud plutôt que celle de l'est, Maurice Decker aurait dit non. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Pourquoi nous faire aller vers le sud? Enfin, notre route pour Lausanne, elle est là, à notre main gauche. Seigneur, quand même! Mais voyez-vous, c'est exactement ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Parce que bien sûr, une fois de plus, nous l'avons dit depuis avant-hier soir, nous avons, nous, toute l'information dans ce texte. Nous avons les raisons de la déviation du peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël ne l'avait pas. Et il nous faut apprendre à lire les Écritures en effaçant les solutions. Parce qu'alors, le texte des Écritures prend un relief extraordinaire, et alors nous pouvons vraiment nous identifier, et surtout ne pas donner de leçons à ceux qui parfois ne se sont pas conduits de manière impeccable. Combien de fois dans notre itinérance tout au long de ces dernières décennies, nous avons été confrontés à ce qui est tellement désagréable, à savoir les déviations. Vous aimez les déviations? Moi, je ne suis pas de ceux qui les aiment. Alors surtout, je pourrais passer toute la fin de cette matinée à vous parler de certaines de ces déviations, parce qu'alors, nous en avons eu de corsées. Nous ne les aimons pas. Et pourtant, Dieu a inscrit des déviations, des chemins détournés, des détours sur notre itinéraire. Mais Dieu fit faire au peuple un détour. C'est mais, oui, de notre côté, énigmatique. C'est mais incompréhensible de Dieu. un détour par le chemin du désert vers la même mer Rouge. Dans un livre remarquable sur le combat du disciple de Jésus-Christ, de l'Église, l'auteur écrit ceci: « La vie chrétienne n'est pas une promenade de santé avec air conditionné et vitesse de croisière. Le berger de nos âmes nous dirige personnellement sur une route parsemée de bosses, de tours et détours, de nids de poules, d'embouteillages, de tempêtes de neige, oui, d'accidents, de précipices, de faux panneaux de signalisation et même d'attaques terroristes. Au début du mois de juillet prochain, va s'ébranler la caravane annuelle du Tour de France. Les coureurs vont arriver à un moment donné dans les Pyrénées. Et de nombreux coureurs du Tour de France vont trembler, vont être angoissés. Certains qui pourtant aiment le vélo, dont c'est le métier, vont pester, ronchonner, parce qu'il va falloir franchir certains cols particulièrement redoutables. Et il en est un que nous connaissons bien, nous y avons passé des vacances, à ses pieds du moins, le col du Tourmalet. Ah, le Tourmalet, 2114 mètres de haut, le plus haut col des Pyrénées françaises, qui fait cauchemarder bien des coureurs. Et il cauchemarde d'autant plus qu'il y a, non loin de là, une route absolument magnifique, presque rectiligne, qui mène de la ville de Tarbes à la ville de Pau, en passant par la plaine, et eux, on leur offre le luxe, au lieu de faire cet itinéraire si facile, n'est-ce pas, de Tarbes à Pau, on leur offre de grimper là-haut au Tourmalet. Et je comprends pourquoi ce Tourmalet est un vieux mot français, basque, qui signifie en réalité mauvais détour. Mauvais détour. Seriez-vous, pour certains d'entre vous, dans un de ces mauvais détours? Alors il y a plusieurs enseignements à tirer de ce texte. Tout d'abord, bien sûr, Dieu savait. Dieu savait ce qu'ils allaient rencontrer s'il les guidait sur ce chemin-là. Il est question de voir la guerre. Il est question du pays des Philistins. Et cela sous-entend toutes sortes d'éléments très problématiques pour un peuple qui n'était pas encore spécialement organisé, bien loin de là. La suite de l'histoire de ce peuple nous le prouve. Et puis, il y avait sur cette autoroute qui longeait la côte méditerranéenne, que j'ai empruntée dans l'autre sens pour aller du nord d'Israël jusqu'au Caire, il y avait à cette époque des forteresses d'où les Égyptiens surveillaient tous ceux qui traversaient cette voie stratégique. Que de problèmes pour le peuple d'Israël s'il était passé par là. Mon peuple n'est pas encore mûr. Il sera incapable de supporter le choc avec les Philistins. Ils étaient déjà, eux, les Philistins, très aguerris, avancés en technique militaire, chars de fer et autres. Et il y a ainsi, nous ne pouvons pas le voir maintenant, mais c'est néanmoins très beau, dans cette histoire de la conquête du territoire promis, ces freins bénis du ciel, ces freins provoqués par l'amour de Dieu lui-même pour favoriser la meilleure conquête, dans laquelle vraiment le peuple d'Israël connaîtrait une vraie victoire conduite par son grand capitaine. Et ceci me conduit tout d'abord à souligner un premier enseignement. Les petites souffrances, des détours et des lenteurs incompréhensibles valent mieux que les grandes souffrances des défaites inutiles. Redisons-le, les petites souffrances, des détours et des lenteurs incompréhensibles valent mieux que les grandes souffrances des défaites inutiles. Lorsque vous ouvrez le livre du Deutéronome au chapitre 1er, donc le dernier des 5 livres de Moïse, Deutéronome chapitre 1er, dans les versets 2 et 3, il est écrit « Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès-Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier jour du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël, et ils étaient en bordure du pays promis, mais il y avait le Jourdain à traverser. 11 journées d'une part, dans la 40e année d'autre part. Et c'est vrai qu'Israël a fait ses 11 journées de route, auxquels se sont ajoutées environ 2 années au pied du Sinaï, avec toute cette école biblique fondamentale nécessaire pour développer une juste vision de Dieu, et par Dieu de la sainteté, de la différence entre le pur et l'impur, etc., n'est-ce pas? Et puis il y a eu ensuite un détour. Un détour qui a duré 38 ans. 38 ans. Et qui n'était pas un détour voulu par Dieu pour son peuple. Un détour consécutif à l'orgueil incrédule de son peuple. Puisque cela a valu à toute une génération de mourir dans le désert. Mais bien aimé, si nous n'acceptons pas dans nos vies de nous soumettre à ces détours incompréhensibles de Dieu que Dieu place sur notre route dans sa sagesse, et que nous préférons quand même partir à la conquête des Amalécites comme Israël l'a fait, ne nous étonnons pas si nous retardons notre maturation spirituelle et si nous n'avons pas de douloureuses souffrances consécutives à notre péché à endurer par la suite. Combien il est meilleur d'accepter les petites souffrances, des détours et des lenteurs incompréhensibles de Dieu. Dans son livre remarquable « La joie de craindre Dieu », Jerry Bridge écrit ceci. La caractéristique fondamentale de ceux qui craignent Dieu devrait être l'humilité. Accepter que les chemins de Dieu sont souvent incompréhensibles, que sa sagesse est infinie alors que la nôtre est limitée, voilà une démonstration importante d'humilité. Quiconque prend plaisir à craindre Dieu devrait dire avec David, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Psaume 131, verset 1er. J'ai beaucoup apprécié aussi cette parole de Don Carson dans son livre remarquable « Dans l'intimité de Jésus », où il écrit ceci. Dans leur développement, les croyances achoppent parfois sur des vérités difficiles ou sur des expériences pénibles qu'ils ne peuvent comprendre pendant un certain temps. Même des chrétiens mûrs et très instruits sont parfois submergés par des difficultés. Dieu n'en a pas terminé avec nous lorsque nous avons derrière nous 6 mois, 3 ans ou 50 ans de vie chrétienne. Il y a toujours beaucoup à apprendre, beaucoup à comprendre. Je suis en train d'écrire les dernières pages d'un ouvrage qui a été pour moi une bénédiction merveilleuse de la part de Dieu concernant la vie de prière de Daniel. Et les premières pages de ce livre évoquent le fait que ce n'est pas parce que Daniel était largement octogénaire qu'il avait droit à une retraite paisible et heureuse. Ce fut précisément dans cette dernière période de sa vie ici-bas qu'il dut affronter l'épreuve la plus terrible dans la fosse aux lions. Nous sommes appelés à mûrir d'un bout à l'autre de notre itinéraire de disciples de Jésus-Christ. Nous sommes appelés, vous et moi, à être comme les castors qui ne cessent de grandir jusqu'à la fin de leur vie. C'est rare, n'est-ce pas, dans le monde animal? Et c'est ce qui fait que dans une colonie de castors, vous avez des différences énormes entre l'ensemble de la famille au travail. Pourquoi? Parce qu'ils grandissent jusqu'à la fin de leur vie. À ce point de notre réflexion, je vous propose, en restant arrimé à ce texte d'Exode 13, d'en prendre un second. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 28. Ésaïe, chapitre 28. Dans Ésaïe, au chapitre 28, nous allons prendre connaissance d'une parabole. Une magnifique parabole. Et une parabole qui est l'expression, le fruit de l'amour de Dieu envers son peuple de plus en plus désobéissant. Le contexte immédiat de cette parabole, c'est celui d'une menace de plus en plus forte, évidente, de la part des armées assyriennes. Nous sommes aux alentours peut-être de l'année 702 avant Jésus-Christ. Nous savons, parce que nous avons les éléments dans l'histoire et dans la suite même des récits d'Ésaïe et d'autres prophètes, nous savons que 1 an après cette parabole, Jérusalem allait être investie par l'armée du potentat assyrien à l'époque d'Ézéchias. Et plus tard, la main de Dieu allait s'apesantir sur le royaume du Nord, jusqu'à ce qu'en 722-721, toute cette population du royaume du Nord soit déportée et en grande partie remplacé par des païens. Et parce que Dieu connaît l'histoire, parce qu'il s'inscrit hors du temps, dans son amour, tout en annonçant des jugements de plus en plus terribles à cause de l'endurcissement d'Israël, tempère ces jugements, pour montrer aussi que ce sont des jugements mesurés, que Dieu ne sort jamais de ses gonds comme nous, humains, sommes capables de le faire. Il tempère ces jugements par le don de cette magnifique parabole des versets 23 à 29. Et vous remarquerez par curiosité que dès le verset suivant, chapitre 29, verset 1er, vous avez un malheur qui commence. Malheur à Ariel, malheur à Jérusalem, cité dont David fit sa demeure. Mais avant ce malheur, voici donc le contenu de cette parabole. Verset 23, prêtez l'oreille, écoutez ma voix, soyez attentifs, écoutez ma parole, cette manière qu'ont les Hébreux d'enfoncer le clou quand ils désirent votre écoute la plus attentive. Et Dieu nous s'adresse à nous de cette manière, mais bien-aimés, nous qui sommes ici, soyons attentifs, écoutons avec notre cœur. Celui qui laboure, verset 24, pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répande la nigelle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée, l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nigelle avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat la nigelle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grandes sont ses ressources. La parabole du cultivateur qui devait trouver dans l'écho de l'Israël rural, dans le cœur de l'Israël rural, un écho extraordinaire. Parabole du cultivateur. Parabole qui évoque l'importance extraordinaire de l'équilibre divin. Nous avons un Dieu, je le bénis. Un Dieu équilibré, non pas avec notre conception de l'équilibre, mais il y a une beauté, une harmonie dans l'essence de Dieu. Il n'y a pas de tension entre les différents éléments qui composent son caractère et qui s'interpénètrent de manière merveilleuse. Oh, il y aurait tant à dire sur la beauté du caractère de Dieu. Dieu est équilibré. Et comment se manifeste cet équilibre? Eh bien, avant de prendre la suite du texte, je pense rapidement à Exode, au chapitre 15, donc un tout petit peu plus loin que le texte que nous considérons dans Exode 13. Exode, chapitre 15, versets 22 et suivants, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Mais que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Vous imaginez, là encore, la situation de ce peuple d'Israël? Il y a quelque chose qui, dans mon esprit, immédiatement fait tilt, comme on dit au verset 22, après 3 journées de marche dans le désert. C'était une pensée qui devait être gravée, une phrase qui devait être gravée dans l'esprit d'Israël. Pourquoi? Parce qu'à combien de reprises Moïse ne s'est-il pas approché de Pharaon en lui disant « Laisse le peuple d'Israël aller pour faire 3 journées de marche dans le désert pour adorer Dieu ». Voyez les textes du début de l'Exode, cela est répété à plusieurs reprises, n'est-ce pas? 3 journées de marche, nous allons adorer dans le désert. Alors je peux imaginer qu'ils ont compté les 3 journées de marche après quand ils sont partis. Et au bout de 3 journées de marche, eux qui étaient assoiffés n'ont trouvé que de l'eau amère. Et on peut imaginer tout ce qui a pu se passer dans l'esprit du peuple. Mais là, Dieu est intervenu. Et il est dit que ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et que se passe-t-il après? C'est là l'équilibre extraordinaire de Dieu. Ils viennent de vivre une expérience difficile à Mara. Mara, dans nos vies, est toujours quelque chose de difficile, que nous avons de la peine à comprendre lorsque nous caressons ces schémas. Après 3 jours de marche dans le désert, nous allons connaître ceci et cela. Mais, voyez le verset 27, ils arrivèrent à Élim. Élim, je me souviens d'être passé à Élim, c'est un endroit absolument extraordinaire. Il y a encore des sources dans un paysage tellement aride, de couleur ocre, montagneux, et puis subitement ce jaillissement de verdure et d'eau. Ils arrivèrent à Élim 8 kilomètres après Mara. 8 kilomètres! Et avec des précisions délicieuses, il n'y a que la Bible pour nous donner de telles précisions, n'est-ce pas? Il y avait 12 sources d'eau. J'imagine Moïse rassemblant les chefs des 12 tribus et leur disant, eh bien, à chaque tribu, sa source d'eau, on ne va pas se battre, chacun aura sa fontaine à lui tout seul. Tribu une tribu après l'autre, et puis 70 palmiers. Alors il allait bientôt y avoir cette structure avec ces 70 anciens, n'est-ce pas? Peut-être était-ce en préparation, on peut imaginer tant de choses, n'est-ce pas? Un ancien, un palmier, un ancien, un palmier, un ancien, un palmier, chacun des anciens avait de l'ombre au-dessus de lui. C'est pas beau ça? Ça c'est l'amour de Dieu, voyez? Mara, certes, il y a des maras dans nos vies. Mais Dieu a derrière les maras des élims en perspective. Et puis après, c'est vrai, au début du chapitre 16, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, ils arrivèrent au désert de Sin, mes amis. Le désert de Sin qui est qualifié de terrible. Terrible. 350 mètres sous le niveau de la mer, la température y monte jusqu'à 50 degrés. Mais bien aimé, il avait fallu que Israël, au désert, apprenne à compter sur Dieu pour boire de l'eau. Maintenant, il allait devoir apprendre à compter sur Dieu pour manger son pain et avoir sa viande. C'était une nouvelle épreuve. Et c'est ce qui nous est dit dans le texte. Verset 4, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve. Que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Pourquoi y a-t-il des circonstances difficiles dans nos vies? Pourquoi y a-t-il de ces moments incompréhensibles? Mais parce que dans les domaines fondamentaux de la vie, quand on est disciple de Jésus-Christ, on doit apprendre à compter sur Dieu. Ne comptez pas sur votre paye à la fin du mois. Ne comptez pas sur la banque, sur les assurances. Quand on est disciple de Jésus-Christ, même si on a une banque et des assurances, là où c'est absolument nécessaire, Dieu veut que nous apprenions à compter sur lui et à dépendre de lui pour l'eau, le pain et la viande. C'est-à-dire pour les besoins fondamentaux de la vie. Nous pensons que c'est seulement dans les situations exceptionnelles qu'il faut nous attendre à Dieu. Et Dieu nous dit « Non, je veux que tu sois dépendant de moi pour le béaba de ta vie. » Et cela commence le jour de ta nouvelle naissance, mes bien-aimés. Et nous sommes, nous, tellement nantis dans nos pays d'Europe occidentale que l'Église de Jésus-Christ a complètement oublié qu'être disciple de Jésus-Christ, c'est compter sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat pour tous les biens de la vie. Il est le Seigneur de mon dos, il est le Seigneur de mon pain, il est le Seigneur de ma viande. C'est lui qui donne. Alors quand je vois un disciple de Jésus-Christ qui ne lui rend pas grâce avant le repas, j'en souffre intérieurement. Parce qu'il a oublié le béaba de la dépendance de Dieu pour nos besoins fondamentaux. Mais voyez, cet équilibre divin absolument extraordinaire. Alors nous aurions pu prendre d'autres exemples. Mais nous revenons à notre parabole et nous allons au verset 23 et 24, donc verset 24. « Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours ? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain ?» Qu'est-ce que cela veut dire ? Oh, je bénis Dieu, parce que Dieu ne laboure pas toujours mon cœur. Dieu ne laboure pas toujours notre cœur. Il y a aussi dans nos vies des cycles. Il y a des cycles dans une vie d'église, il y a des cycles dans une vie personnelle. Labourage, ensemencement, croissance, récolte, battage, foulage, repos, et cela reprend. J'ai sous les yeux quelques paroles d'un homme de Dieu qui est auprès du Seigneur maintenant, qui a beaucoup souffert et qui a écrit ceci. Quand aucune lumière n'est projetée sur le pourquoi de notre souffrance, quand le sens habituel de la grâce, la prière, l'adoration, la louange, la parole de Dieu n'exerce plus aucun effet sur l'esprit découragé, quand les questions spirituelles ne nous touchent plus, quand les formules éprouvées des livres et des séminaires sonnent creux et paraissent vides de sens, quand nous découvrons qu'il existe des choses auxquelles il est impossible d'échapper par la louange ou la prière, nous pouvons réprouver le diable, invoquer le sang, poster des anges, porter de l'ail autour du cou, mais rien ne dissipe les ténèbres. Cette nuit noire de l'âme, ce Sahara du cœur est une expérience inévitable et légitime pour le croyant. Elle n'est pas une route secondaire, mais bien une voie principale. À travers les âges, des saints ont emprunté cette route, sombre route, avant nous. La nuit noire de l'âme. Ce passage dans le tunnel. Je pense à ce croyant qui était dans un train à l'époque où l'électricité n'existait pas, n'était pas installée dans les trains, il était dans un wagon, il discutait là avec un voisin dont il faisait connaissance et il découvrit assez rapidement qu'il n'avait jamais voyagé encore en train. Et voilà que le train entre dans un tunnel et le wagon est donc plongé d'un instant à l'autre dans la nuit la plus noire. Et ce croyant se dit, mais il n'a pas l'habitude du train, il va se demander ce qui est en train d'arriver. Il faut que j'essaie le plus vite possible de l'aider, de le rassurer. Alors bien sûr, il ne lui a pas mis la main sur le genou, parce que l'autre aurait peut-être fait une crise cardiaque, mais il lui a dit avec le plus de gentillesse possible, mais monsieur, rassurez-vous. Nous sommes dans un sac, mais il y a un trou à l'autre bout. Il y a un trou à l'autre bout, dit cette parabole. Dieu ne laboure pas toujours. Il y a le tunnel. Et le pessimiste voit le tunnel. L'optimiste voit la lumière au bout du tunnel. Mais le réaliste, rempli de foi, que doit être le disciple de Jésus-Christ, lui voit le tunnel, il voit la lumière au bout du tunnel et il voit le prochain tunnel. Dans un de ses commentaires, un homme de Dieu a écrit ceci, « Satan aime nous frapper à deux reprises. » Le premier coup nous atteint par surprise, le second nous terrasse. C'est-à-dire que nous sommes parfois tellement enivrés par la lumière retrouvée, par les couleurs retrouvées, par la vie retrouvée, au sortir du tunnel, que nous baissons totalement la garde, comme si nous étions déjà au ciel. Et c'est comme cela qu'un certain prophète Élie est tombé en dépression spirituelle. Et il ne s'agit pas, bien entendu, de vivre une sorte de défense porc-épic, hérisson, agressive, en ayant peur de ce qui va arriver. Dieu nous demande une vigilance paisible. Seigneur, je te bénis de pouvoir goûter à la richesse de cette oasis, mais je sais très bien qu'il va y avoir encore des moments incompréhensibles sur cet itinéraire qui me conduit vers toi. Parce que tu es un Dieu équilibré, un Dieu qui nous aime intensément. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours, dit la parabole. Versets 25 et 28, et nous allons vers la fin de cette étude, n'est-ce pas, après en avoir aplani la surface, qu'il répande la nigelle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée, les pôtres sur les bords. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nigelle avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nigelle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Oh, que j'aime ce texte. Combien il m'encourage. Dieu est en train de me dire, tu sais, Maurice, je sais parfaitement faire la différence entre toi et les autres. Parce que tu es unique à mes yeux. Parce que j'ai un chemin particulier pour toi. Comme j'ai un chemin particulier pour ton épouse. Comme j'ai un chemin particulier pour vos enfants. Nous sommes différents les uns des autres. Nous avons une place marquée dans le plan de Dieu, dans sa stratégie. Bien entendu, nous ne la connaissons pas. Ou nous en connaissons quelques aspects, quelques bribes. Mais Dieu sait. Il est le grand stratège, le grand organisateur. Quelle sagesse infinie. Alors, Dieu choisit soigneusement le traitement de l'épreuve, le parcours pour chacun de nous. Il n'y a pas d'arbitraire ni de désordre dans le plan de Dieu. Même dans l'horreur de l'exil de Judas à Babylone, Dieu dira de manière très claire qu'il a châtié son peuple avec mesure par l'exil. Les épreuves et les tests sont soigneusement mesurés. Dieu respecte notre personnalité à chacun tout en la purifiant. Dieu nous éprouve en fonction de sa connaissance parfaite de notre personne, de ses objectifs, de ses plans pour nous. Et cela est bienfaisant parce que cela me garde d'un piège dans lequel il est si facile de tomber, celui de regarder le chemin par lequel les autres passent, en vivant dans l'angoisse permanente de devoir passer exactement par le même chemin. Non, ce n'est pas à l'épreuve des autres que je regarde. Certes, cette épreuve peut m'apprendre bien des choses pour ma croissance spirituelle, mais je ne me focalise pas sur elle au point de craindre que ce soit mon épreuve. Je regarde au Seigneur, qui a prévu un chemin unique au monde pour moi, en fonction de sa connaissance parfaite et de la place qu'il m'assigne dans son champ. Oh, merci Seigneur. Et enfin, Dieu laboure toujours, et cela va de soi dans la parabole du cultivateur. Il ne saurait en être autrement. Dieu laboure toujours avec l'objectif de semer et de récolter à son heure. Dieu veut la souffrance, la fécondité par la souffrance. Non pas la fécondité à la mode d'un christianisme complètement dévié, centré sur ce faux évangile de la santé et de la prospérité qui est en train d'atteindre nos milieux évangéliques européens à une vitesse catastrophique. Nous ne connaissons plus nos Bibles ni la pensée de Dieu, mes amis. Non. fécondité, dans cette transformation tellement primordiale, tellement essentielle de nos vies, à la ressemblance de notre frère aîné, et je le dis avec un infini respect, le Seigneur Jésus. Parce que c'est cela ce qui a de l'impact sur la société au sein de laquelle nous vivons. Fécondité, parce que des hommes et des femmes autour de nous peuvent voir que dans nos circonstances, nous ne voulons pas évacuer la souffrance en la voyant systématiquement comme une ennemie à combattre. Mais nous voulons reconnaître que Dieu se sert d'elle comme le sculpteur de ses instruments pour forger l'image du Seigneur Jésus dans nos cœurs, dans notre caractère, dans nos comportements. Éphraïm, c'est le nom d'un des deux enfants qu'un certain Joseph a eu en Égypte. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Manassé, il m'a fait oublier toutes mes peines. Éphraïm est devenu la tribu principale d'Israël, puis du royaume du Nord, au point que Israël, parfois, s'appelle, notamment dans le prophète Osée, Éphraïm. La partie prise pour le tout. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Alors je comprends Ésaïe 28, 29. Cela aussi vient de l'Éternel, des armées, c'est-à-dire du Dieu totalement souverain qui tient tout, tout entre ses mains. Admirable. Et son conseil est grande, sont ses ressources. Permettez qu'en fermant ma Bible, je lise pour vous ce magnifique texte. Dieu ne peut te laisser voir toujours ton chemin. Marcher, mais par la foi, tel est l'ordre divin. Dieu ne peut de ta route enlever chaque pierre, tu lâcherais bientôt sa tendre main de père. Dieu ne peut t'épargner ni les pleurs, ni la croix, ni le joug qui t'oppresse et t'irrite parfois. Il faut jusqu'au fond boire la coupe amère, il faut pour vivre au ciel passer par le calvaire, il faut que la douleur nous guide pas à pas vers un but que sans elle nous ne poursuivrions pas. Souvent à la nacelle il faut un vent d'orage pour que les matelots pointent droit au rivage. Souvent à la brebis il faut prendre un agneau pour qu'elle entre au bercail avec tout le troupeau. Ainsi dans son amour Dieu permet la fournaise, il l'attise parfois plutôt qu'il ne l'apaise. Mais ce Dieu tout-puissant a dit que pour les siens le feu ne brûlerait jamais que les liens. En Dieu qui te conduit, mets donc ta confiance, chante, si tu le peux, un hymne d'espérance, peut-être, en t'écoutant, un cœur auprès de toi, triste, désespéré, retrouvera la foi. Qu'importe si ta voix hésite, pleure ou tremble, Dieu permet de pleurer et chanter tout ensemble. Ô notre Dieu, comment pourrions-nous cultiver l'ingratitude au point de ne pas desserrer les lèvres de notre cœur pour t'exprimer notre reconnaissance, nos louanges, notre adoration. C'est vrai qu'il est des moments où nous n'y comprenons plus rien, mais nous te bénissons parce que tu nous entr'ouvres le ciel en nous ouvrant ta parole. Tu nous expliques ces choses par le ministère du Saint-Esprit qui nous les rend accessibles. Et nous trouvons cela délicieux et bienfaisant. Seigneur, tu es digne d'être aimé et notre dette d'amour est si grande envers toi. À toi soit la gloire, loué, béni sois-tu, admirable est ton conseil et grandes sont tes ressources. En Jésus-Christ, par lui et pour lui. Amen.